Bonjour à tous, toujours à Vesoul en ce jeudi 12 février 2015. Il est minuit et il est temps de faire le bilan de cette deuxième journée de festival qui nous a permis de découvrir les deux premiers films des visages des cinémas d'Asie contemporain, donc la sélection des films contemporains comme son nom l'indique. Le premier film, je l'ai teasé hier, c'est The Monk, un film birman de Thi Mang Nhang. Jérémy, tu l'as vu ce matin, qu'en as-tu pensé ?
Donc déjà, je vais commencer par résumer un peu le film.
Donc, tout à fait, une mise en contexte.
Donc The Monk, ça parle d'un jeune garçon, Zawana, qui est recueilli très très jeune dans un monastère d'un petit village de la campagne birmane. Et donc on va le voir évoluer et on va le voir partager entre le désir qu'il éprouve pour une jeune fille du village et l'ombre écrasante de son mentor, le grand moine du village, qui est un peu la sommité du lieu, quoi, et que tout le monde respecte. Donc ce film, on peut en avoir peur au début, on peut se dire que ça va être un joli livre d'images et qu'on va s'ennuyer poliment, mais finalement il y a autre chose qui s'en dégage, il y a toute la situation birmane qui est exposée, mais tout en, c'est en filigrane, quoi, il y a pas, c'est tout en douceur, tout en non-dit, et ça me plaît beaucoup parce que c'est très doux, c'est très sensoriel, il y a des choses comme ça qui se disent pas forcément, il y a la nature, il y a l'eau, il y a les éléments, etc. Mais sous cette douceur, il y a quand même une violence et un côté un peu infernal qui arrive petit à petit. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant.
C'est vrai qu'on sent l'état de délabrement du pays, quand on parlait justement de petit village dans lequel le film se passe. On sent, alors d'un côté, l'entraide des paysans, des gens qui habitent là, vis-à-vis de ce monastère qui n'attire plus grand monde, donc à part ce novice qui est recueilli par le grand maître et dont l'austérité et la difficulté de la vie fait que un à un les autres novices partent attirés par une vie plus facile dans la grande ville, même si c'est pas forcément le cas comme on va le voir. Et c'est vrai qu'il y a cette opposition entre la simplicité de cette vie qui est simple mais assez dure et la manière dont est filmée la ville auquel le personnage va se rendre quand le maître est malade. Et au niveau de la subtilité dont tu parlais, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus une opposition frontale entre le calme de la campagne, la violence et la rapidité de la ville. C'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai que tout au long du film, il y a un léger glissement et il y a des scènes un peu plus fantastiques qui vont avoir lieu, un léger décadrage de la réalité, voire une métaphore un peu infernale à partir du moment où on arrive dans la ville,
ouais.
Qui rend le film tout de suite plus intéressant que la chronique campagnarde et l'effet carte postale aussi qu'on pouvait craindre à la base. Nicolas.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que moi j'avais un peu peur à la base de voir le film qui se concentre vraiment sur la vie des moines. Bon, c'est pas inintéressant, mais dire voir des moines pendant 2 heures ou 1 heure et demie prélever des offrandes et aller prêcher leur bonne parole dans les petits villages, c'est pas forcément très intéressant sur la durée. Et là, c'est vrai qu'il y a cette deuxième partie qui amène le film vers autre chose. Des sentiers un peu plus fantastiques qui font un peu penser au cinéma de Weerasethakul Cool.
Dès la première scène d'ailleurs, il y a une scène
un peu mystérieuse,
assez, voilà, équivoque, mystérieuse avec un petit enfant, on ne sait pas d'où il sort.
On peut comprendre que c'est en fait au début on voit un petit enfant qui se balade un peu dans la nature et qui arrive dans ce monastère et on peut comprendre qu'il y a une ellipse et en fait c'est le héros du film qui a grandi.
Oui, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté.
Il n'y a pas d'ambiguïté, et puis on voit que cette scène se répète sur la fin, où lui recueille des enfants.
Mais justement, il n'y a pas d'ambiguïté, voilà. On sait que c'est ce jeune garçon, voilà. Mais qui devient adulte, mais c'est la façon de d'amener la chose, de filmer.
Très mystérieux, ouais.
Voilà, c'est comme la dernière scène, l'ellipse, c'est une ellipse, mais la façon dont il a de faire disparaître le moine, etc., comme ça, ça donne un aspect tout de suite un peu plus onirique ou fantastique. Mais après. J'ai trouvé aussi que la deuxième partie dans la ville est assez, et plus violente. Mais, mais toute la première partie, en fait, on voit, c'est un peu tempête sous un crâne, quoi. On les voit tous face à leur contradiction, quoi. On voit ce jeune homme qui sait pas, est-ce que je vais suivre mon disciple qui s'en va à la ville, ou est-ce que je suis fidèle à mon maître, etc. Après, il y a exactement le même combat, le même dilemme pour la jeune fille, qui sait pas, qui est partagée entre son amour pour ce jeune homme et le fait qu'il soit un moine et qu'il y a aucun futur possible. Et pareillement, il y a aussi ce combat que le grand moine a. Quand il filme ce vieil homme. Quand il filme ce vieil homme en gros plan comme ça, avec sa face, voilà, c'est un parchemin, et on sent tous ces regrets, est-ce que j'aurais pu faire différemment, est-ce que peut-être que si j'avais été moins dur, il y aurait encore du monde pour être là, parce qu'on voit qu'il galère pour récupérer de l'argent, etc.
Il souffre un peu de la solitude aussi, ça se ressent, quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc, il y a tout ce film-là, il y a cette idée de regret, de dilemmes moraux, comme ça, et j'ai trouvé ça bien rendu et assez passionnant, en fait, à suivre, comme ça.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le réalisateur l'a très bien expliqué, la censure birmane est encore très forte sur le cinéma, et la façon dont il présente le film sans forcément livrer un pamphlet contestataire contre le régime en place, c'est assez subtil la façon dont il rend compte un peu de l'état du pays et de la pauvreté des villageois, tout ça. Et bon, il craint encore la censure évidemment quand il va essayer de sortir son film dans son pays, mais on voit qu'il essaie de trouver des solutions sans forcément être confronté frontalement la dictature, parce qu'il sait que ça n'arrivera pas à être diffusé de toute façon.
En vrai, c'est pas le sujet.
Non, c'est pas le sujet central.
Direct, justement. Je sais pas mais si c'est un pas de côté par rapport à la censure, mais je pense que c'est une manière d'en parler aussi en ayant un autre sujet central. Et c'est vrai que quand tu parlais d'Apichapong ou Rastakul, il y a ces scènes, cette tentative d'échapper onirique. Qui peut rapprocher un peu les deux cinémas, c'est cependant quand même beaucoup plus dramatisé,
beaucoup plus social,
que chez Horace et Takul, où donc s'il présente la vie monacale, il y a des digressions, une dédramatisation complète des enjeux, alors que là finalement c'est un peu l'inverse, on part d'un fil narratif très ténu, et finalement le fil arrive à se tendre pour raconter vraiment une histoire, un parcours d'un personnage, clore vraiment une narration. Donc au niveau de la narration, c'est un cinéma qui est assez accessible et très, très narratif, quoi, finalement. Le deuxième film que nous avons vu au FICA cette année, de la compétition Visage des cinémas d'Asie contemporain, c'est Margarita with a Straw, un film indien co-réalisé par Shonali Bose et Nilesh Maniyar. Jérémy, je te laisse présenter le film avec ta maestria habituelle.
Donc le film retrace l'histoire de Leila, qui est une jeune indienne handicapée moteur. Et donc on va suivre son parcours, c'est un peu la quête initiatique de cette jeune fille entre l'Inde et les États-Unis. Donc on va suivre un peu sa façon d'appréhender les hommes, son désir naissant pour l'homme, etc., sa relation familiale. Donc sur le fond, comme souvent à Vesoul, c'est un film assez intéressant. Parce qu'on y on y voit une jeune femme handicapée présentée sous un jour très humain, justement, où il y a une empathie certaine, mais il n'y a pas de spectacle, c'est une femme dans toutes ses contradictions, quoi. Elle fait aussi des erreurs, elle n'est pas sur un piédestal, quoi. C'est pas la Candide de base qui subit les événements, etc. Il y a des trucs assez intéressants à ce sujet. Après, sur la forme, c'est vrai que bon, ça ressemble beaucoup à un téléfilm de luxe, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'idées de mise en scène. J'y ai pas perçu de choses intéressantes là-dessus, quoi. C'est vraiment un film de fond et un film d'acteur aussi, parce que parce que l'actrice principale, je ne me rappelle plus de son nom, j'ai un trou. Kelki Coshin, voilà. C'est une performance assez bluffante. Elle arrive à ne pas en faire de trop. On a eu peur avec le trailer qu'on avait vu.
Le très bon trailer. Qui n'ont pas du tout le film d'ailleurs.
On a eu très peur d'un Simple Jack, mais finalement elle le fait très très bien quand même. Et elle arrive à être assez émouvante sur l'ensemble du film.
Moi, c'est une lecture que, enfin, que c'est tout à fait juste, mais c'est vrai que ça m'embête un peu de dire que le film est intéressant parce qu'il offre un visage justement humaniste, enfin complètement humain en fait, d'un personnage handicapé. C'est quand même pas la première fois qu'on voit ça au cinéma. Donc on peut remonter à My Left Foot, c'est le premier exemple qui me vient en tête, dans lequel le personnage a aussi des contradictions. C'est pas un mec forcément très très sympathique, fait des erreurs. Et là aussi, donc moi je trouve pas que ça soit très nouveau. Ce qui peut être nouveau, c'est le fait que ça soit dans un film indien. Alors d'après ce que j'ai compris, il y a quand même un peu d'argent américain, c'est une participation de Sundance. La réalisatrice vit entre les États-Unis et l'Inde. Donc moi, ça me semble pas non plus aussi. Alors c'est peut-être courageux de le sortir en Inde. Le co-réalisateur parlait de la censure et de la manière dont le sujet va être accepté en Inde, puisqu'il faut dire que le personnage s'aperçoit aussi qu'elle est bisexuelle et vit une histoire d'amour avec une autre femme aux États-Unis qui est aveugle. Alors qu'en Inde, l'homosexualité est encore un délit. Donc la loi avait changé, il me semble qu'elle a rechangé il y a quelques années. Donc effectivement, le sujet est intéressant dans... un New Delhi, tu dis ?
Non, c'est un New Delhi maintenant. C'est plus un délit, c'est un New Delhi. Non, mais c'est pas grave.
Et donc effectivement, le courage vient de la thématique, d'une certaine subtilité dans le traitement du scénario, mais... Parce qu'on se dit, c'est un film indien. Si c'était un film purement américain, on penserait juste que c'est un téléfilm, comme tu le dis, basique, qui manque absolument d'audace dans sa mise en scène et même dans le traitement des enjeux.
Bah, c'est une structure très américaine, déjà, comme on en avait parlé après en sortant du film. C'est une structure très américaine. Il y a l'introduction, après il y a les problèmes, après il y a la résolution, c'est des trucs super basiques. Mais je pense que si, je pense que le co-réalisateur nous a dit qu'il y avait un distributeur en France, oui. et je suis assez confiant pour un film comme ça sur son petit succès quoi d'estime, parce que c'est un sujet qui touche et de filmer le handicap, c'est toujours quelque chose de quand c'est bien fait, c'est toujours quelque chose de très fort. On l'a vu les réactions dans la salle. Assez unanime, je pense. Tout le monde l'a trouvé magnifique.
Moi.
Oui. Non, mais, voilà. Je trouve que ça fonctionne. Quoi. Je trouve que ça fonctionne. Et ça arrive à être drôle de temps en temps. Ça arrive à être émouvant. Voilà, ça remplit son office en fait.
Non mais voilà. Exactement. Après moi j'ai pensé, on a parlé justement à Intouchable et surtout à Samba, le dernier film de Nakache, et j'ai oublié le nom de
Toledano.
Voilà, où c'est un peu le même genre de cinéma, c'est-à-dire que c'est très inoffensif au niveau de la manière dont c'est emballé, de la mise en scène, et ça fait passer quelques problématiques un peu sociales, mais sur lesquelles finalement tout le monde est d'accord par rapport ou à la manière dont c'est traité, justement, du fait de cette manière inoffensive. On peut pas ne pas être d'accord avec le propos du film quand on le voit, parce que l'enrobage, la mise en scène ne peut choquer personne finalement, donc le propos passe par là et à mon avis rend l'ensemble justement inoffensif, donc tout le monde a aimé Intouchable et Samba. Il n'y a pas de polémique.
Samba, pas tellement.
Et dans Intouchable et Samba, moi j'y vois aussi quelque chose de plus condescendant, de plus... Et... peut-être involontairement, mais j'y vois quelque chose quand même de...
Ouais, c'est possible, ouais.
Voilà, dans Intouchable, c'est quand même l'handicapé qui vient d'un milieu aisé, qui rencontre le banlieusard joué par Omar Sy, et donc il va quand même, c'est quand même la rééducation du bon noir, quoi. Ça peut être perçu comme ça aussi, Intouchable. Et là, je vois pas de condescendance là dans ce film-là. Je vois pas de condescendance. Je vois pas de, je vois pas ce, même involontairement, je ne vois pas ce côté un peu. On va dire que je prends de haut le sujet et je prends, il y a pas de confrontation comme ça. Donc ouais, c'est pour ça que je le comparerais pas à Intouchable ou à Samba.
Je suis complètement d'accord. C'est surtout que le sujet de base, donc qui est l'handicap, c'est même pas le sujet central du film finalement. C'est une idée de départ et le film finalement parle de tout, presque tout sauf de handicap quoi.
Après c'est maladroit parce que c'est très télévisuel dans la façon de faire.
La mise en scène n'est pas très élaborée. Pas que la mise en scène.
Hein, parce que je pense. Excuse-moi, je te coupe, mais je pense à une scène. Quoi, je pense à une partie du film. C'est la partie où la jeune Leila, elle tombe amoureuse du rocker, là, du chef de file de la bande.
Ça, c'est la partie
qui ressemble
du film.
Qui ressemble à une sorte de Jonas Brothers. Mélange indien, beau gosse avec sa petite crinière Justin Bieber. Et donc là, il y a toute cette partie où on va la voir séduite par cet homme et on va voir au fur et à mesure qu'on sait très bien comment ça va se passer. Quoi. C'est des trucs qu'on voit dans les séries télé 15 000 fois. Et je trouve que le traitement, comment il le traite de cette façon-là, c'est très télévisuel justement, parce que d'une, c'est prévisible, et en plus, c'est filmé, mais vraiment, c'est plein, quoi.
Justement, c'est ce que je voulais rebondir là-dessus, c'est que, en fait, on a l'impression que le début est très cliché, comme ça, très télévisuel, mais on remarque qu'en fait, ça correspond un peu à son évolution, à son émancipation sexuelle, et la façon dont elle prend conscience un peu de...
Mais c'est pas que sexuel, hein.
C'est tout, mais c'est
justement partie sexuelle. Et justement, je trouve ça assez maladroit, justement. Quoi, la dernière scène est très maladroite, quoi, parce que pour le coup, c'est assez Captain Obvious, mais voilà, quoi. Voilà, elle se regarde dans le miroir, elle se fait un bisou à elle-même. Moi, j'ai un rendez-vous avec moi-même, je m'accepte, tu vois, c'est super maladroit.
Bah, à la fois, le... Alors, comme le film va sortir en France, on va pas dire la dernière scène, mais pour ceux qui l'ont vu ici... c'est vrai qu'il y a quelque chose de trop évident, mais c'est un peu le propos est surligné dans la dernière scène, c'est-à-dire qu'on arrive vers l'acceptation de soi-même. Mmh. Et en même temps, là, on passe de un personnage qui s'accepte soi-même à un narcissisme complet dans la manière dont c'est montré. Heureusement qu'il y a le film avant qui ne nous dit pas le personnage pense ça, puisque cette scène prise individuellement est quand même de très très mauvais goût, quoi. Mmh. Bon bah voilà, donc nous sommes d'accord sur The Monk pour dire que c'est plutôt un bon film, une bonne sélection de Vesoul, et sur Margarita ou The Stroke qui nous a un peu convaincu à moitié. Qui vous a surtout pas mal convaincu et moi un petit peu.
Ah, disons que c'est moi je trouve que c'est quand même sincère.
Oui, on peut pas lui enlever, c'est sûr.
Et par rapport à tous les films un peu chiant, qui montre le handicap comme des, enfin, les handicapés comme des frics ou qui sont un peu voyeuristes. Je trouve de voir un film comme ça qui finalement essaye de faire tout sauf ça,
c'est ça qui le rend assez émouvant,
voilà, qui le rend attachant.
Je prends quand même les paris d'un petit prix du public pour ce film,
sans problème.
Ce qui lui donnera en plus un bon point de départ pour une éventuelle distribution française. Une autre sélection dont on n'a pas parlé hier, même si on a parlé un peu du cinéma de Hong Kong, mais justement, c'est le regard sur le cinéma chinois qui a lieu également. Et vous avez vu aujourd'hui un film de Zhang Yimou, dont trois films sont présentés cette année. Judo, Qui joue une femme chinoise, et le dernier,
Happy Times, qui donc raconte l'histoire d'un loser en fait qui essaie de trouver un peu l'amour en essayant de d'épouser la première femme venue. Donc il en est au début du film, il en est à son 18e enfin sa 18e femme, et donc c'est une femme un peu forte, et parce qu'il dit qu'il en a marre des maigres, donc il essaye autre chose. Et donc en fait il va rentrer dans la vie de cette femme, il va vouloir l'épouser en pensant que c'est déjà fait, elle accepte si elle lui donne de l'argent pour le mariage et pour leur propre vie. Et donc il va se rendre compte que dans cette famille il y a le fils qui est à l'image de la mère, et la fille qui n'est même pas sa fille en fait, la fille de la mère, mais qui est sa belle-fille d'une autre union. Et du coup donc il y a toute l'histoire par-delà, c'est-à-dire que l'évolution de la relation entre la belle-fille qui est complètement lâchée par sa mère, la mère et le frère, et qui va finalement se retrouver dans ce loser, quoi. Qui à la base leur relation n'est pas forcément très chaude, très cordiale, mais les deux vont se retrouver au final dans cette relation et vont avoir des jours meilleurs, comme l'indique le titre du film, entre guillemets.
Et donc Happy Times, ce qui est intéressant, c'est que c'est les Anguilles Mou qu'on ne voit plus maintenant. Voilà, on est loin du cinéma esthétisant, etc. C'est vraiment c'est du cinéma tout simple. C'est du cinéma tout simple mais en même temps il y a un mélange des tons. Voilà, ça aussi entre comédie et drame.
J'ai juste oublié de préciser un important détail. La fille est aveugle, ce qui a son importance. Quand même.
Voilà. Et donc on est aussi sans arrêt entre comédie et drame, et ça donne un truc assez cohérent et très 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 très, très touchant. On l'a expérimenté, et il y a tout un discours sur les sensations, sur le fait qu'elle ne voit pas et que lui va se mettre dans un rôle de metteur en scène, en fait, en quelque sorte, puisqu'il va créer un univers totalement pour la jeune fille aveugle, lui faire croire justement que les choses vont bien, en fait.
Alors qu'elles vont pas forcément.
Et donc, c'est assez intéressant quand on voit la Chine avec... là, ce qu'on voit, la façade, etc., et ce qu'on voit, et ce que le public ne voit pas forcément, etc. Et là, on est toujours entre ce qu'elle ne voit pas, ce qu'elle perçoit et ce qu'elle croit. Ouais. Et ensuite, après, il y a tout un jeu comme ça, et c'est super émouvant, quoi.
C'est pour ça que d'ailleurs qu'il disait que le film avait failli être censuré.
C'est ça.
En Chine, parce que c'était vraiment une métaphore
entre ce loser qui se découvre une fille et elle qui se découvre un autre père, ça marche à tous les coups. Voilà. Ouais. On l'a vu mille fois, mais
surtout c'est les acteurs, c'est pareil. Voilà. C'est les acteurs qui ont tout. Elle arrive à transmettre vraiment un nombre incalculable de choses par ses expressions.
C'est du Zhang Yimou comme ça qu'on aimerait bien voir tous les jours, quoi. Et à noter que c'est produit par Terrence Malick, justement,
qui était crédité au générique. Il n'y a pas grand-chose à voir avec son cinéma. Mais...
Bah oui, mais justement, ça prouve qu'il peut toucher à autre chose, quoi, qu'il peut s'intéresser à autre chose.
Il devait s'occuper à ce moment-là, parce qu'il ne faisait pas beaucoup de films.
Exactement.
Il fallait au moins se lancer dans la production.
C'est ça.
Ce qui est bien, c'est que le film, il est jamais manichéen, en fait. C'est-à-dire que... On a toujours ce doute, c'est-à-dire que le loser, il cherche aussi à s'enrichir quelque part. Et à la base, il se retrouve avec cette fille sur le dos et il sait pas trop quoi en faire, quoi. Il essaye un peu de s'en débarrasser. Et puis il y a toujours ce sentiment-là, ce sentiment de tromperie qui reste, parce qu'à un moment, il l'engage en fait pour faire des massages. Mais il lui crée une espèce d'univers comme ça où il lui fait croire qu'elle est dans un grand salon de beauté d'un grand hôtel qu'il possède, alors que pas du tout, c'est dans un hangar avec un espèce de salon reconstitué avec des tôles et des trucs comme ça.
Ça joue sur la croyance.
Et jusqu'au bout, en fait, à un moment, ils ont plus d'argent, donc ils lui donnent des faux billets, enfin des trucs qui lui font penser à des faux billets. Évidemment, elle s'en rend compte, mais elle rentre dans le jeu parce qu'elle se rend compte au final que. À travers, même s'il y a un intérêt mutuel entre guillemets, ils vivent des bons moments en fait entre eux, quoi, pour la première fois presque. Et donc c'est ça qui est beau, quoi, c'est que il y a, voilà.
C'est vrai que ça permet de, le Figaro en tout cas permet de se rappeler qu'il y a eu des grands moments de cinéma donc en Chine comme on l'a vu hier à Hong Kong. L'autre intérêt du FICA, c'est sa section documentaire qui permet un peu de prendre le pouls sur les sociétés asiatiques qui sont décrites. Moi, j'ai pu voir trois documentaires aujourd'hui, donc je vais en parler assez succinctement. Plus Hikikomori, qu'on a vu hier, donc qui est un documentaire français sur les Hikikomori au Japon, qui sont des jeunes qui décident de couper tous liens sociaux et de s'enfermer dans leur chambre. Ils restent 3-4 ans comme ça. Aujourd'hui, j'ai pu voir Iranian Ninja, qui traite de jeunes femmes qui prennent des cours pour devenir ninja, généralement pour diverses raisons. Et, l'une des plus touchantes explique que sa mère s'est fait agresser et tuer, et c'est pour elle un moyen de pouvoir apprendre à se battre et à gagner une liberté qu'elle n'aurait pas sans cet entraînement. Et enfin, Areva, qui traite du problème du nucléaire et de l'électricité en Inde. Et c'est vrai que, alors, autant en voyant les sujets comme ça, les sujets peuvent et sont d'ailleurs passionnants et intéressants. Le problème, c'est que dans tous ces documentaires, qui sont généralement des productions européennes, pour deux des trois qui ont été cités, il y a quand même une primauté du sujet sur la forme, et que finalement on se retrouve alors au pire avec des reportages de 25 minutes, une demi-heure, comme c'est le cas pour Iranian Ninja, au mieux avec Areva ou Ikikomori, des documentaires au style très télévisuel, qui ont une efficacité didactique ou démonstrative, mais qui sont quand même très limitées en termes de recherche cinématographique. Et c'est vrai que, voilà, si je peux donner un petit bémol, c'est que quand on va dans un festival de cinéma, ce qu'on recherche peut-être, en tout cas c'est le cas pour moi et pour nous, c'est du cinéma avant les sujets. Et c'est vrai que dans cette section documentaire, encore une fois cette année, le FICA choisit, par rapport à ces quelques films qu'on a pu voir, de mettre en avant d'abord un regard sur les sociétés asiatiques plutôt qu'un regard cinématographique sur les sociétés asiatiques. Fort heureusement, ce n'était pas tout à fait le cas dans le dernier documentaire que j'attendais donc hier, qui était Dancing a Forgotten Cambodia Lost Rock and Roll, qui lui a aussi, on peut lui reprocher tout de même cette primauté du sujet, encore une fois, vu qu'il choisit de raconter l'histoire du Cambodge des années 50, mais surtout 60 et 70, uniquement par le prisme du rock'n'roll, et comment la culture populaire, la chanson, la variété, en fait, était traversée par les différents mouvements politiques, idéologiques, et a été le reflet sociétal des évolutions du pays pendant toutes ces années, jusqu'à son arrêt brutal en 75. Par les Khmer Rouges. Et l'intérêt du film est donc avant tout son sujet et son traitement, alors qui est un peu démonstratif. L'intérêt du film est avant tout informatif, et on peut lui reprocher cet aspect un peu illustratif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chansons, il y a beaucoup d'informations, et la mise en scène est très précise. Mais aussi très, très illustrative, c'est-à-dire qu'elle va choisir des images qui peuvent illustrer des chansons, illustrer des éléments de la société à travers un travail iconographique qui est assez impressionnant, des extraits d'émissions de télévision, des interviews. Donc la forme reste quand même un peu trop classique à mon goût. Il n'y a pas assez de cinéma, plus que dans les autres, mais a ce mérite d'être à la fois passionnant par son sujet et très léché. Le réalisateur John Pirozzi a un parcours qui est assez amusant, puisqu'on peut il a fait pas mal de clips. Donc on peut le relier à un documentaire sur la musique au Cambodge, mais par exemple il est aussi réalisateur de seconde équipe de Person of Interest, donc la série qui passe sur, c'est une série de la Fox il me semble,
non CBS,
la série de CBS, hein, tout à fait. Donc voilà, ce qui amène un certain niveau graphique, au niveau de une tenue esthétique pour le documentaire. Je pense qu'on peut clore en faisant comme hier un petit tour de table. On n'a pas parlé de Sparrow. Vous voulez parler de Sparrow? C'est vrai qu'on
voulait dire deux trois mots sur Sparrow parce que je le découvrais. Et oui, c'était un des rares Johnnito que je n'avais pas vu, et même si c'est pas mon préféré, moi je trouve que c'est un agréable divertissement. Et de toute façon, la paire Johnnito Salmaniam est toujours impressionnante pour nous divertir, quoi, pour nous offrir un peu du cinéma c'est du cinéma, du grand cinéma maîtrisé, mais toujours un peu léger, un peu un peu, bah surtout là quoi, ça change un peu de ces films de ces polars ou de ces films de gangsters habituels, on va dire. Et là, bah l'histoire de Pickpocket, ça donne un ton léger à sa filmographie. Et puis c'est un film très très ludique, très amusant.
Alors moi, si je peux dire un truc sur Sparrow, c'est tout de même bizarre de le mettre dans la section tenir en haleine, vu qu'il n'y a absolument aucun suspense pendant tout le film. Et c'est un peu quand même, voilà, c'est plus des déambulations dans la ville de Hong Kong. Et c'est vrai qu'on n'est pas, enfin les enjeux dramatiques du film sont quand même très.
Oui, c'est très léger. Le scénario est très simple. On va dire. Mais, le scénario est très simple, mais après, il y a quand même des scènes de tension.
Je pense que c'est plus par le nom du réalisateur plutôt que par le.
Non, mais après, c'est toujours une. N'importe quel prétexte est bon pour montrer oui, Sparrow, hein,
c'est sûr.
De toute façon. Ouais. Donc, nous allons terminer avec notre tour de table. Quel est le film que vous attendez le plus demain? Et on verra si vos prédictions se sont réalisées.
Moi, donc, ce sera. J'attends pas mal le. Le film d'horreur laotien, Chantali, parce que, normalement, si c'est logique, ça devrait être un film qui aurait 10 ou 20, 20 ou 30 années de retard, dramaturgiquement parlant, sur les standards actuels. Mais j'ai envie d'être surpris et de voir peut-être un film unique en son genre,
propre à son pays. Jérémy.
Donc moi, c'est ce que j'attends le plus, c'est Le Soleil se lève aussi de Jiang Wen, parce que j'ai découvert Jiang Wen il y a pas longtemps, et j'ai vu Let the Bullet Fly la semaine dernière, qui est un honnête divertissement, mais voilà, j'ai perçu quelque chose, j'ai perçu
une... C'est lui qui avait fait Les Démons à la Porte, on est,
oui.
On est d'accord, ouais.
Et j'ai une idée de, voilà, il y a de la mise en scène, c'est très intéressant dans le fond, dans la forme, et donc là, ce film-là me faisait envie depuis longtemps, bah voilà, c'est l'occasion de le voir, donc je l'attends avec impatience.
Bon, ouais, demain il y aura un gros débat sur Chantali, vu que c'était le film que, c'est le film que j'attends aussi, et j'en profiterai pour aller voir L'Île de Giovanni que j'avais raté l'année dernière. Donc là aussi on en reparlera demain.
Superbe film.
See you, Space Cowboys.
Ciao.